Il est midi sur Radio Orient, le journal Loïc Barrière. En France, une mosquée de Cannes fermée pour des propos antisémites et son soutien à des associations dissoutes. La France annonce que les Émirats Arabes Unis vont participer au fonds d'aide mis en place avec l'Arabie Saoudite pour aider la population libanaise. Le nouvel an berbère, célébré dans les pays d'Afrique du Nord et au sein de la diaspora berbère à travers le monde, entretien avec l'écrivain Youssef Zirem, auteur d'une histoire de la Kabylie. Enfin, l'avant-première de Memory Box à l'Institut du Monde Arabe, un film de Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fermé une mosquée à Cannes en raison notamment de propos antisémites. Le ministre de l'Intérieur reproche aussi aux responsables de cette mosquée d'apporter son soutien au CCIF et à Baraka City, dissous fin 2020. Le sujet de cette mosquée a fait l'objet d'entretiens entre le ministre et le maire LR de Cannes, David Lisnard. Gérald Darmanin précise que sur les plus de 2500 lieux de culte musulmans, on compte 70 lieux de culte radicalisés. Au total, 21 lieux de culte sont actuellement fermés du fait de prescriptions administratives, d'une décision judiciaire, d'une reprise de bail, de travaux ou d'une fermeture administrative. Les Émirats Arabes Unis vont se joindre au fonds d'aide mis en place par la France et l'Arabie Saoudite pour la population libanaise. C'est ce qu'a annoncé Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères se félicite que lors de la visite du président Macron en décembre 2021 dans le Golfe, on a pu renouer les liens entre le Liban et les pays du Golfe. Le Liban est plongé dans une grave crise économique. Hier, le pain manquait dans la plupart des boulangeries du Liban. Ce 12 janvier est chômé en Algérie à l'occasion du Nouvel An berbère, une fête célébrée par les berbères dans toute l'Afrique du Nord. Je vous propose d'écouter l'écrivain Youssef Zirem, dont le livre « Histoire de la Kabylie » aux éditions Yoran vient d'être réédité.
Eh bien, les berbères forment un peuple très ancien, donc qui vit dans toute la partie nord de l'Afrique, hein, donc de l'Égypte jusqu'au Maroc depuis des siècles. Et donc, et comme tout peuple, et il sait que les saisons varient. Et donc, lui aussi, il a inventé un calendrier, et c'est principalement un calendrier agraire, hein, parce qu'à l'époque, donc aux époques reculées, l'agriculture était un peu l'essentiel de l'activité humaine. Donc, ce nouvel an est fêté aujourd'hui, le 12 ou le 13 janvier, dans tous les pays d'Afrique du Nord. En Algérie, c'est un jour férié depuis quelques années, grâce aux luttes de toutes ces générations qui se sont battues pour se réapproprier son histoire et son identité. Voilà.
Comment se célèbre le Nouvel An berbère dans les familles, notamment en Kabylie, que vous connaissez particulièrement ?
Oui, je viens de Kabylie, mais il faut dire que ce Nouvel An est célébré dans toute l'Afrique du Nord, hein, pas seulement en Kabylie. Alors c'est d'abord une fête, les rituels changent un petit peu, mais c'est d'abord une fête où il y a un repas copieux, voilà, hein, ce n'est pas toujours le cas, hein, donc dans ces régions un peu où l'existence est assez difficile, donc il y a toute la famille qui se réunit, il y a des rites un peu initiatiques, par exemple les enfants sont coiffés à ce moment-là, et on leur espère un avenir meilleur. Au fait, on s'échange les vœux de bonheur de toute l'année qui arrive, en espérant le meilleur. Voilà pour le rituel, et cela ne date pas de ces quelques années où les gens se sont réappropriés, hein, donc les traditions amazir, hein, amazir ça veut dire berbère dans la langue des berbères eux-mêmes. Donc pour exemple, on a exhumé un lamb grand poème d'un grand poète andalou qui s'appelle Ibn Khuzm, qui est mort en 1160. Et donc déjà quand les Almoravides avaient leur domination sur une grande partie de l'Afrique du Nord et de l'Andalousie, ce poète nous racontait dans une belle langue arabe comment était célébré ce nouvel an amazigh.
Est-ce que le nouvel an berbère est un moment important aussi pour réaffirmer l'identité du peuple berbère ?
Probablement, mais pas que, parce que ça fait partie de la vie de chaque peuple. Je crois et j'espère que tous les peuples du monde peuvent avoir des relations privilégiées en s'écoutant les uns et les autres, en s'imprégnant des choses qu'il y a de meilleur chez les uns et les autres. Cette fête berbère, effectivement, c'est un clin d'œil à la tradition, c'est un clin d'œil à l'identité, mais c'est aussi un moment de partage, un moment d'humanité.
Et c'est un moment aussi pour faire connaître la culture berbère à travers le monde ?
Oui, probablement encore une fois, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de diaspora berbère, hein, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, et qui effectivement, autour souvent d'associations culturelles, célèbrent elles aussi, ces diasporas, cette fête, et parfois, effectivement, pour les autres peuples non berbères, c'est une occasion de voir un peu qu'est-ce que c'est que cette culture. Hein, samedi passé, il y a eu un défilé et même un carnaval pour célébrer à Paris ce nouvel an berbère et c'était une réussite malgré quand même des préoccupations sanitaires délicates.
Alors quels sont vos vœux aujourd'hui, Youssef Zirem, pour les Berbères, vous qui avez écrit Histoire de la Kabylie aux éditions Yoran?
Eh bien, moi, je souhaite bonne fête et je souhaite le meilleur à tous les Berbères, mais aussi à tous les habitants de la Terre. Moi, je suis un passionné des cultures, des traditions de tous les pays du monde. Et la culture berbère est une partie de cette culture des femmes et des hommes de la Terre. Et les hommes et les femmes de la Terre peuvent cohabiter en harmonie et vivre heureux. En tout cas, c'est ce que j'espère.
L'écrivain Youssef Zirem, il est l'auteur de Histoire de la Kabylie aux éditions Yoran. Il vient également de publier Chaque jour est un morceau d'éternité, journal parisien 2005-2015 aux éditions Douro. L'invité de Pluriel hier soir était Hubert-Julien Laferrière, député du Rhône et porte-parole de Yannick Jadot pour l'élection présidentielle. Il a notamment évoqué la décision d'Emmanuel Macron de réduire les visas accordés aux ressortissants des pays du Maghreb.
Moi j'ai trouvé cette décision de réduire de moitié les visas assez choquante. Il faut effectivement favoriser ces visas. Moi j'ai vécu des situations en tant que député avec des ressortissants qui ne pouvaient pas rejoindre leur conjoint, même pour des obsèques, vous voyez, parce que effectivement on a bloqué les visas. Donc aujourd'hui il y a une histoire entre la France et le Maghreb, une politique de la Méditerranée qui doit se renforcer, et il ne faut pas bloquer ces visas, ça ne sert à rien. À part agiter des peurs. Aujourd'hui, la coopération entre la France et le Maghreb doit s'accentuer, doit se développer. C'est dans l'intérêt de tout le monde et ça passe évidemment par la fluidité dans les migrations entre les deux côtés de la Méditerranée.
Hubert-Julien Laferrière, député du Rhône et porte-parole de Yannick Jadot. Il était l'invité de Pluriel hier soir, émission que vous pouvez retrouver sur radioorient.com. Et puis l'invité de Pluriel ce soir à 19h et 23h est Alexandra Spiner, conseillère régionale LR d'Île-de-France et coprésidente des femmes avec Valérie. Jean-Yves Le Drian estime que les négociations sur le nucléaire iranien à Vienne sont trop lentes. Selon le ministre français des Affaires étrangères, cette lenteur compromet la possibilité d'aboutir à un accord dans un délai réaliste. SOS Méditerranée regrette la décision de l'Italie d'immobiliser son navire Ocean Viking dans un port sicilien. L'ONG humanitaire s'étonne de l'extrême minutie d'une inspection de ce bateau. Un bateau qui porte secours aux migrants qui tentent de gagner l'Europe. Le Covid-19 en France, on ne laisse pas circuler le variant Omicron, assure Olivier Véran. Le ministre de la Santé estime cependant que ce variant est trop contagieux pour le stopper véritablement. Début des soldes d'hiver, ce mercredi, une ambiance plutôt morose à cause du Covid-19. De nombreux Français sont en télétravail et les consommateurs sont tentés par les achats sur Internet. Le mouvement de grève lancé par les syndicats enseignants pour jeudi 13 janvier est soutenu par la FCPE, première organisation de parents d'élèves. La FCPE appelle les familles à ne pas envoyer les enfants en classe jeudi. Une grève décidée pour protéger contre la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire à l'école. Lors de ses vœux à la presse, Emmanuel Macron a salué le rôle de la presse pour lutter contre la désinformation durant la crise sanitaire. Selon le chef de l'État, les démocraties pluralistes où la presse peut rappeler les faits et éclairer le débat ont plutôt mieux réussi à faire face à la crise que des systèmes autoritaires sans journalistes libres. Football avec les matchs de la CAN hier au Cameroun. Déception pour les Algériens tenants du titre qui ont fait match nul 0-0 face au Sierra Leone. Match nul également lors de la rencontre Soudan-Guinée-Bissau. Le Nigeria l'a emporté 1-0 face à l'Égypte. À suivre ce mercredi, Tunisie-Mali, puis Mauritanie-Gambie et Guinée-Équatoriale-Côte d'Ivoire. Enfin, une avant-première à l'Institut du Monde Arabe. Ce mercredi sera présenté Memory Box, le film de Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, un film qui retrace le parcours d'une famille de la diaspora libanaise installée au Canada. Entretien avec Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej.
Il y a plusieurs manières très différentes de raconter Memory Box, en fait. On peut partir parfois, on raconte la genèse du film, parce que le film est basé sur des cahiers et des lettres et des cassettes que j'ai envoyées à ma meilleure amie dans les années 80. Elle vivait en France, je vivais au Liban. Et au moment où elle a dû partir à cause de la guerre civile, on s'est promis de s'écrire tous les jours. Et on s'est écrit tous les jours de 82 à 1988. Et des années plus tard, on s'est un peu perdu de vue. Pendant à peu près 25 ans, et quand on s'est retrouvés, on s'est échangé tous ces cahiers, ma correspondance et la sienne, et j'ai eu accès tout d'un coup à mon adolescence dans les moindres détails. Et notre fille Alia, qui était elle-même adolescente à l'époque, avait très envie de lire tous ces cahiers avec son père Khalil. On s'est dit que c'était peut-être pas une très bonne idée, mais ça nous a donné justement l'idée du film. Et on peut résumer Memory Box en disant que c'est un film qui se passe autour dans une famille, en fait, au Canada, où tout d'un coup, le jour de Noël, arrive une grande caisse, une boîte avec à l'intérieur des cahiers, des cassettes, des lettres que la maman d'Alex Maya a écrit dans son adolescence à sa meilleure amie. Et Maya ne veut pas ouvrir cette boîte, mais sa fille, Alex, va plonger dans cette correspondance en secret et imaginer la vie tumultueuse de sa entre imagination en fait et réalité, puis revoir comme ça, relire la vie de sa mère.
La sortie de votre film, qui a été salué dans différents festivals, est en soi un miracle. Un film libanais qui sort en France en pleine pandémie, en pleine crise politique au Liban, et vous avez été vous-même touché directement par l'explosion du port de Beyrouth.
Bon, on habite à Jemaïzé, notre bureau, notre studio, la société de production About. C'est un peu le quartier qu'on a, dans lequel on a choisi de vivre il y a à peu près une quinzaine d'années. Et on était donc c'est à 400 mètres du port, et on était là-bas le jour de l'explosion. Et c'est un miracle que Joanna ait des petites blessures, mais parce que en fait, ce qui est hallucinant avec cette explosion, c'est qu'on se sent toujours chanceux par rapport à d'autres, étant donné que c'est une explosion qui était incommensurable, où tellement de gens ont été blessés, tués, voilà. Donc
En fait, le film a été tourné en 2019, juste avant l'effondrement économique et politique au Liban. Et on a monté tout ce film durant cette crise et on l'a terminé après l'explosion, en fait, en automne. À l'automne, et c'est vrai que c'était un peu surréaliste, parce que pour quiconque a vécu un peu la guerre du Liban, il y a beaucoup d'échos entre la dévaluation de la livre des années 80 et ce qui se passe aujourd'hui, le découragement, la tristesse, l'exil. Donc il y avait des échos extrêmement troublants avec le film. Mais le film raconte aussi justement toutes ces histoires de transmission, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, comment on raconte l'histoire, pourquoi c'est important de parler du passé pour pouvoir vivre notre présent, justement.
Les réalisateurs Joanna Hadjitoma et Khalil Jorej, leur film Memory Box est projeté à l'Institut du Monde Arabe ce mercredi avant une sortie nationale le 19 janvier. Cette édition est terminée, je vous retrouve à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous à l'écoute de Radio Orient.